Bonjour, merci d'avoir d'être venu en nombre pour accueillir aussi notre auteur, notre invité de notre Mola Polar numéro 15, Sonia Delzongle, qui vient de publier aux éditions de Noël dans la collection La Belle Collection Sueur Froide son nouveau thriller Quand la neige danse. Et son premier, même si c'est pas le premier, la première volée des enquêtes de Anna Baxter, son personnage profiler, qui vient de sortir Dust, donc le titre Dust, qui vient de sortir en format de poche chez Folio. C'est un vrai plaisir, c'est une écrivaine de talent. On avait reçu ici même l'année dernière une autre auteure chez De Noël, Sandrine Colette, qui fait un beau bout de chemin. Et on espère, on croit aussi au talent de Sonia pour porter les couleurs de cette belle collection, vraiment qui nous fait découvrir des écrivains et des univers à chaque fois singuliers. Justement, donc c'est pas forcément le tout premier livre que tu as écrit, et tu viens du monde quand même de l'écrit et de l'art. Est-ce que tu pourrais nous brosser en quelques mots ton parcours qui t'a mené à l'écriture, donc en 2015 de ce premier roman Dust?
Alors bon, mon parcours qui m'aurait mené éventuellement à l'écriture, d'après ce que je peux en dire, c'est la lecture déjà. Puisque j'ai lu de façon, on va dire, précoce, à 5 ans, je savais lire. Et donc je me suis intéressée à ce que mes parents pouvaient bien fabriquer en me délaissant un petit peu, on va dire. Voilà, parce que bon, c'était vraiment de gros lecteurs. Mon père était enseignant en philosophie. Et j'ai commencé par lire les publicités à l'extérieur, comme ça. Et un jour, mes parents se sont aperçus que j'avais enregistré des choses et que je savais lire. Donc voilà, c'est vraiment la lecture qui m'a ouvert, je pense, à l'écriture, outre aussi l'influence de mon père qui écrivait. Et j'étais dans ce bain très, très tôt. Mais je n'en ai pas fait quelque chose très, très tôt, parce que peut-être aussi par... manque de confiance aussi, par pudeur, parce que c'est vraiment se livrer aussi à l'écrit. Donc, j'ai fait tout à fait d'autres choses. Je suis allée en faculté. Et puis, pour finir, j'ai fait les Beaux-Arts. On va me dire, rien à voir avec l'écriture. En un sens, si. Ça se complète. Dans mes travaux picturaux, puisque c'était plutôt donc, la peinture, j'amenais aussi l'écriture, mais en tant qu'ornement. Pas forcément en tant que message, en tant que sémantique, mais plutôt ornement. Donc j'ai continué à écrire en parallèle, à lire beaucoup, et puis j'ai commencé par la nouvelle, que j'ai laissée un petit peu dans les tiroirs, puisque je lisais aussi beaucoup d'auteurs à nouvelles, ne me sentant absolument pas capable, à l'époque, de m'attaquer au roman.
À cette époque-là, tu lisais notamment
Carver,
un grand nouvelliste américain.
Et puis des nouvellistes russes également. Voilà, le roman, pour moi, ça me paraissait monumental, déjà de par la construction. Et puis, il y a eu un cheminement qui s'est fait, on va dire, assez naturellement. Et j'ai commencé comme ça par écrire des romans un peu courts, mais que je gardais aussi pour moi, tout en distillant un peu des intrigues dedans. Et donc ça commençait déjà à m'ouvrir, au polar et au thriller.
Donc justement, quel a été le déclenchement vraiment de ce premier roman, même si ce n'est donc pas le premier, il y a eu trois romans avant. Mais qui ont été publiés de façon plus confidentielle. Comment es-tu rentré dans la collection Sueur Froide chez De Noël? Comment as-tu été repéré? Est-ce que c'est un manuscrit par la poste?
Alors ça fait un peu rêver, les manuscrits par la poste, mais aujourd'hui, c'est plutôt par mail, en fait. Donc non, j'avais été, on va dire, présenté par un auteur très connu, qui maintenant est très connu. À l'époque, on avait sorti nos deux livres à peu près concomitamment le même mois. J'avais sorti Le Hameau des Purs, qui a été publié au Québec, à Montréal. Et puis, son éditrice, qui à l'époque était dans une grosse maison d'édition, avait lu Le Hameau des Purs et avait beaucoup aimé. Et donc, elle a commencé à me suivre, puisque moi, au départ, je n'avais pas signé avec De Noël. J'avais signé dans une autre grosse maison d'édition. Et puis, il n'y a pas eu suite, finalement. Je suis partie. Et pour finir, avec cette éditrice qui, en quelque sorte, coédite avec De Noël, elle a gardé la partie numérique. Elle m'a fait travailler. Et puis, elle a proposé mon manuscrit à De Noël. Donc, une partie numérique, une partie version papier de Noël. Voilà.
Et c'était déjà Dust à l'époque, c'était, ouais, Jana Baxter.
Tout à fait, c'était Dust.
D'accord. Oui. Et comment est né justement ce personnage et cette envie de raconter, puisque en même temps, c'est vrai que on a l'impression vraiment, et les lecteurs en sont témoins, qu'on a l'impression vraiment que on aurait cru que tu étais une écrivaine américaine. Pourquoi s'est plongé dans l'Amérique et après dans l'Afrique, puisque Dust se passe en grande partie à Nairobi au Kenya. Cet ancrage à l'étranger.
Déjà, parce que j'ai beaucoup voyagé, je me sens, on va dire, plus à l'aise à l'étranger. Je suis familiarisée à la littérature anglo-saxonne d'abord, puisque déjà toute petite, outre la comtesse de Ségur par exemple, vraiment quand j'étais toute petite, que mon père a voulu me faire lire, me faire découvrir, qui était très réjouissant. J'ai quand même lu les aventures par exemple de Tom Sawyer, David Copperfield, des choses qui m'ont vraiment transportée. Et Le Seigneur des Anneaux, qui est un de mes livres cultes, trilogie, et vraiment, je trouve que les anglo-saxons ont cet art de la narration efficace qui capte pratiquement tout de suite aux premières pages, que je ne retrouve pas forcément chez les auteurs français. Voilà, donc c'est pour ça qu'Anna Baxter est partie, non pas pour être dans l'air du temps, mais ça c'est un peu le danger. On peut aussi me dire, ah oui, mais vous avez ou tu as voulu faire genre, américain.
Un roman à l'américaine.
Roman à l'américaine. Non, c'est que vraiment, c'est sincère chez moi, c'est une authenticité, je suis imprégnée de ça. Et donc, Anna Baxter est quand même d'origine française. Donc, elle aussi, elle s'est exportée, étant née en France. Elle a décidé de partir vivre aux États-Unis pour des raisons qu'on découvrira au fil des romans. Puisque Anna Baxter est un personnage récurrent, donc qui est apparu dans Dust, et puis dans Quand la neige danse, elle revient, et dans celui qui est en cours en ce moment, qui sera publié en 2017. Là, c'est un peu l'apothéose de son histoire.
Donc, ça sera une trilogie.
Non, pas forcément. Elle reviendra encore après.
D'accord.
Après, il y aura peut-être un one-shot, quand même, pour reposer, peut-être, et l'auteur et le lecteur.
Pour maintenir le suspense.
Pour maintenir un peu le suspense, parce que là, dans le troisième, c'est vrai que ça va être vraiment focalisé sur elle et très concentré. Et retour en France, cette fois.
Il y a un personnage, donc, de profiler, psychocriminologue, plutôt qu'une flic.
Oui. Parce que déjà, je m'intéresse peut-être plus à la psychologie criminelle, justement, que... j'ai jamais été enquêtrice, même pas non plus psychologue, mais j'ai lu, en revanche, des ouvrages, et puis, j'ai préféré qu'elle soit... Alors, personnage féminin aussi, parce que, même s'il y a de plus en plus d'auteurs dans le thriller, d'auteurs féminins, avec quand même des personnages féminins, du coup, il n'y en a pas non plus pléthore, et c'est aussi une façon de me projeter un petit peu dans le personnage. Physiquement, au contraire, elle est à l'opposé de moi, mais inévitablement, je pense qu'on peut retrouver certaines choses.
Oui, elle est quand elle rencontre le chef de la police de Crystal Lake, puisque dans Quand la neige danse, ça se passe dans une petite ville à côté de Chicago, donc Crystal Lake dans l'Illinois.
Oui.
Il la décrit à un moment, peut-être un peu à la fin du livre, une petite, elle est petite, physique.
Dans Dust déjà,
on le sait déjà, mais qui contraste avec lui, qui est assez grand, et en effet elle a un physique qui est assez comme ça, assez impressionnant, une froideur aussi, tu décris une certaine impression de froideur qui laisse deviner une intimité qui n'est pas facile, qui n'est pas évidente pour elle.
Parce qu'elle a de grosses fêlures de par son passé aussi, et puis un abord pas forcément froid, mais en tout cas plus introverti. Elle est complexe. C'est un personnage atypique, qui a sombré aussi dans la drogue. Alors ça, non, Ce n'est pas, il n'y a pas de moi là-dedans. Non, non. Mais qui a sombré dans la drogue pour justement essayer de se relever, de se passer. Là, je ne peux pas vraiment en dire plus. Hein.
Mmh. Oui, un passé en effet traumatisant.
Traumatisant.
Une première scène de crime à laquelle elle a été confrontée très jeune et qui laisse des séquelles inévitables et qui explique aussi son désir de traquer les monstres. Oui.
C'est une scène fondatrice, on va dire, voilà, du personnage aussi et puis du début des aventures. Hein. C'est...
Et justement, dans Dust ou Quand la neige danse, on a les prémices aussi de cette puisque ces enquêtes vont la confronter en même temps à cette part d'enfance, cette part de douleur que tu j'imagine, et on imagine aussi que tu vas exploiter, c'est pas le terme, que tu vas
explorer,
révéler dans le troisième volet.
Tout ce qui touche à l'enfant. À l'enfance et à l'enfant victime, la touche vraiment de très près aussi. Et on va savoir apprendre au fur et à mesure pourquoi. Et c'est vrai que, également dans mes livres, c'est quelque chose qui est récurrent, qu'on a traité aussi à Quai du Polar lors d'une table ronde qui était consacrée à la thématique des enfants, justement victimes. Aujourd'hui encore, de violence, de séquestration, sur, en même temps, une affaire à Lyon très importante de pédophilie avec un prêtre donc, qui est en cours en ce moment.
Et je rappelle que Quai du Polar, c'est une grande manifestation du Polar à Lyon, pour ceux qui ne le savent pas, la grande manifestation, en effet, de tous les Polars 2, tous les Polars 2, leur nouveau international, c'est passionnant. Il y a des tables rondes, en effet, des thématiques. Ouais. Et tu viens de Lyon aussi, enfin, après plusieurs, même si tu es né à Troyes, je crois. Enfin, voilà. Oui. Donc, c'est vrai que l'ancrage, on le voit, est très puissant, très prégnant, et la nature, l'environnement, et tu nous as confié donc dans une vidéo que tu as bien voulu nous accorder pour Quai du Polar, la nature, l'environnement, l'ancrage dans le lieu est aussi important que les personnages presque.
C'est un personnage à part entière, la nature, déjà dans le hameau des Purs.
D'accord.
Il y avait cette nature un peu hostile de Haute-Loire, puisque là ça se situait en France, dans une communauté qui est proche des communautés Amish. Et donc, tout allait avec hein, la nature vraiment froide, austère, que j'ai connue aussi, puisque je suis allée dans ce coin. Et nous étions à peu près à 5 km de cette communauté, qui est très, très fermée. Donc, en effet, la nature, oui, peut-être un personnage à part entière. Comme dans Dust, là, en revanche, c'était le désert, la chaleur, évidemment. Et puis, à l'opposé, parce que j'aime bien les extrêmes, dans Quand la neige danse, comme le titre l'indique aussi, c'est l'univers glacé, glacial, qui est important aussi dans l'intrigue. En fait, l'environnement va s'inscrire vraiment dans l'intrigue et va jouer un rôle.
Oui, donc comme influence justement anglo-saxonne et de thriller pur, tu cites, et c'est évident quand on ouvre Quand la neige danse, puisque tu commences par une citation de cet auteur-là, qui pour toi est un auteur culte, et tu cites plus précisément Misery. Pour la neige.
Alors déjà pour la neige qui va aussi jouer un rôle très important dans Misery, puisque bon, je ne sais pas qui connaît cette histoire.
Est-ce que vous l'avez lue? Est-ce que vous la connaissez?
Peut-être, non. Non.
Par le film aussi.
Le film, non, avec Kathy Bates.
Oui, Kathy Bates, oui.
Bon, alors, je ne vais pas non plus révéler, mais il y a une scène du début avec cet écrivain, justement, puisqu'il s'agit d'un écrivain dans l'histoire.
Hein. Quel séquestre
Alors, je ne voulais pas dire ça tout de suite, mais non, justement, non, au début, il a un accident à cause de la neige. Un accident en pleine campagne, parce qu'il effectue dans le coin une sorte de retraite d'écrivain. Enfin, il est dans un gîte, dans une résidence d'écrivain. Et donc, sur le chemin, il va quitter la route. Et à cause de ça, voilà, la neige joue un élément, et le verglas joue un élément très important. Donc, quand la neige danse, il y a aussi un clin d'œil à ça. Il y a un personnage qui s'appelle Gary Bates. Donc, je reprends aussi le nom de l'actrice qui est pratiquement le personnage dans Misery.
qui incarne.
Elle incarne tellement bien que on a l'impression vraiment que voilà que c'est elle qui est sortie de l'histoire avec son physique.
Une grande actrice américaine.
Une grande actrice américaine en effet.
Misery, c'est un livre et c'est un film que enfin voilà qu'on n'oublie pas, la manière de Shining, la manière de
tous ces
thrillers de Stephen King qui sont terrifiants, fascinants parce qu'ils explorent en nous cette part
sombre aussi.
Sombre. Tu commences donc quand la neige danse, donc s'ouvre avec donc cette citation de Stephen King. Les monstres existent vraiment, les fantômes aussi. Ils vivent en nous et parfois ils gagnent. C'est déjà ça.
Justement parce que dans ce livre aussi, il y a quand même la thématique d'une œuvre que j'aime beaucoup, hein, puisque déjà, Bram Stoker aussi fait partie de mes lectures avec Dracula, Mary Shelley, donc avec Frankenstein. Et donc, le mythe du créateur d'un monstre, il est en quelque sorte, il apparaît dans ce livre, sachant que je pose aussi la question, qui est vraiment le monstre ? Est-ce que c'est le monstre, entre guillemets, j'utilise ce mot volontairement parce que la société l'emploie aussi, sur des gens dont on ne peut pas comprendre non plus les pulsions, les réactions. Et donc, qui est le véritable monstre ? Est-ce que c'est le système qui l'a créé ou, en l'occurrence, un autre personnage du livre qui aurait engendré justement ce monstre ?
Parce que justement, ça, c'est pour rappeler le début de l'intrigue donc de Quand la neige danse. Il s'agit de petites filles, quatre petites fillettes qui sont portées disparues à Crystal Lake et dans les environs de Crystal Lake, dans une semaine au mois de janvier, donc en plein hiver. Ces petites fillettes sont portées disparues, du monde d'inattention. Et notamment, on va se focaliser sur un personnage, sur le père d'une de ces fillettes, Joe Lasco, qui a perdu donc sa fillette Liz Earle.
Là, il y a un clin d'œil que je vous laisse peut-être découvrir dans le prénom Liz Earle, si je peux le dire peut-être, parce que c'est la première fois que quelqu'un hier m'a écrit via Facebook en me disant « Est-ce que par hasard, ce prénom ne serait pas une référence à la fille d'Einstein ?» Et effectivement.
Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Bon,
puisque sa femme est d'origine serbe. Et sont mes origines aussi.
D'accord, d'où le J de Sonia aussi.
D'où le J de Sonia aussi. Voilà. Donc, pour expliquer un peu Liz Earle, qui n'est pas forcément un prénom évident et facile, on peut se dire, mais voilà d'où il vient. Et en fait, je l'avais lu dans le magnifique livre du fils d'Einstein.
D'accord. Donc, les références.
Pardon, de quelqu'un qui a écrit sur l'histoire d'Einstein et de son fils.
D'accord, oui, donc en effet, quelquefois, les références des auteurs, quelquefois, ce tapis sont plus profonds des lectures quelles qu'elles soient. Quoi.
Oui. Et, donc, excuse-moi, je t'ai interrompu.
Non, donc quand la neige danse, donc, c'est ces quatre petites fillettes qui sont portées disparues. Et donc la thématique de l'enfance et les parents, enfin Joe, au début du livre, va recevoir un mystérieux colis par la poste, là, cette fois-ci. Un mystérieux colis qui renferme dans sa boîte en carton, un petit cercueil, qui renferme une poupée. On peut le dire aussi, puisque c'est la couverture aussi du livre. Et cette thématique de la poupée aussi, à un moment, l'amie d'Anna lui dit que ça pourrait, cette histoire de poupée envoyée aux parents, qui forcément... une poupée
tous
exactement...
Tous les parents ont reçu des poupées. Ajouter... C'est important. Chaque poupée ressemble à la petite fille enlevée de la famille, donc, et est habillée, porte les mêmes habits que la petite fille le jour de son enlèvement, de sa disparition. On ne sait pas si c'est un enlèvement vraiment.
Oui, on ne sait pas du tout.
Et je suis partie d'un fait divers, en fait, qui s'est réellement produit. Sauf que moi, je l'ai dramatisé, évidemment. Je l'ai tourné à la tragédie. C'est un fait divers qui s'est passé en Californie, dans une petite ville de Californie. Une dizaine de familles avaient reçu. Oula, j'espère.
Non, c'est rien.
Ça va ? Donc, une dizaine de familles avaient reçu, pas par la poste, mais avait trouvé devant sa porte, dans une boîte, une poupée, à l'effigie de leur fille. Mais leur fille, en revanche, leurs enfants, n'ont pas disparu. Hein, étaient toujours en bonne santé, saines et sauves. Et donc, quand même, ça a intrigué les familles. Quel était ce message ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? Est-ce que ça... laissait présager, justement, c'était une menace ou quelque chose. Donc quand même, la police locale a été sollicitée. Et après avoir mené son enquête, il s'agit tout simplement d'une femme qui faisait partie d'une œuvre, plus ou moins de bienfaisance, enfin, monde caritative, et qui, tout simplement par bienveillance, voulait faire plaisir, quoi, vous pensez faire plaisir. Et bon. Alors voilà, ça, dans la réalité, qui souvent est pire quand même, la réalité est pire que la fiction, cette fois, non. Et cette fois, je me suis dit, eh bien, c'est la fiction qui sera pire que la réalité.
Oui, parce que là, les petites filles ont disparu, donc la réception de ce colis est très forcément une fascination étrange, morbide. Mmh. Ces petites filles au visage de porcelaine, au visage de neige, justement.
On revient
à la thématique de la poupée, et ces petites poupées figées, magnifiques, mais en même temps, et cette poupée qui va ressurgir, qui va être une des clés aussi de l'histoire, puisque tu fais un saut en arrière dans les années 90, où il y a une petite fille enfermée dans un...
Alors
dans...
c'est antérieur encore aux années 90, la petite fille. Tu voulais dire
La petite fille enfermée qui regarde les flocons de neige par la fenêtre.
Alors ce n'est plus une petite fille déjà.
C'est une jeune femme.
C'est dans les années 80. Oui. Mais oui, elle est...
Et qui parle à une poupée.
Voilà. C'est difficile d'en parler sans dévoiler. Il faut vraiment doser. Mais tu as prononcé un mot aussi qui est très juste. Enfin, juste bon, de façon naturelle. Hein, je pense que tu l'as prononcé comme ça. Mais c'est l'étrange. Tu as dit. Mmh. Effectivement, dans ce livre, j'ai voulu jouer sur l'étrangeté. C'est-à-dire que l'enlèvement, les disparitions, c'est vraiment classique, malheureusement. Puisque bon, dans les faits divers, et puis ensuite les auteurs forcément reprennent ça. Il y a eu de grands monuments, c'est pour ça que j'ai quand même eu une certaine, on va dire, crainte, appréhension de savoir comment ça va être accueilli, parce que c'est un thème classique. Et outre le fait que ce soit classique, en plus, ça touche les gens, ça peut les ébranler, les mères de famille, les pères aussi. Bon, c'est pas facile comme sujet, c'est glissant. Mais... outre justement le côté, on va dire, classique, j'ai voulu jouer sur l'étrangeté. Et donc, on entre dans cette histoire comme on entrerait un peu dans un conte. Parce que déjà, il faut savoir, les contes m'ont vraiment aussi imprégné. Et les contes ne sont pas ce qu'on pense. Les contes ont été, un peu comme certains aliments, allégés en horreur, comme certains aliments sont allégés en sucre. Mais là, vraiment, ils ont été édulcorés pour être accessibles aux enfants. Mais les contes, en réalité, sont terribles et terriblement inquiétants. Donc, ne serait-ce que déjà, on a quand même peur avec l'histoire du chaperon rouge, avec l'histoire de Hans et Gretel, le petit pousset, l'ogre. Enfin, c'est normalement. Donc voilà, c'est aussi un peu une façon, avec cette forêt aussi qui est présente. On arrive vers un cabanon mystérieux, là aussi. Ça peut être, alors, dans le hameau des Pures aussi, mes personnages, là encore, c'est encore plus flagrant, sont comme sortis d'un conte. Sauf que on peut très bien s'y projeter parce que c'est quand même assez réaliste. Donc je joue entre ces deux frontières. Le réel, comme dans ma peinture, je jouais entre l'abstraction et la figuration. Là, je joue entre le réel et l'imaginaire.
Oui, l'imaginaire, on voit, c'est une part très importante. C'est justement ce qui permet de doser, d'équilibrer l'horreur de la réalité, parce qu'il y a des scènes difficiles, même si c'est pas un thriller peut-être insoutenable. Hein, ce n'est pas
J'ai pas envie de tomber non plus dans une certaine complaisance, dans le glauque, comme on dit, ou dans le gore.
Tu as voulu faire du roman aussi avant tout.
Oui.
C'est important, quoi. Il y a une part de romanesque dans le sens d'une narration qui pourrait être aussi bien lue par des amateurs de ce qui ne lisent pas de polar, peut-être.
Tout à fait.
Donc en effet, ce n'est pas même si c'est catégorisé thriller, c'est en effet c'est du thriller, mais il y a aussi une part de comme tu dis d'imaginaire, d'invisible, et puis même l'invisible va même dans Dust, puisque Dust commence avec des mystérieuses croix de sang.
Oui.
Tracé dans la poussière, donc là on est dans la poussière, on n'est pas dans la neige, on est dans la poussière de Nairobi. Des mystérieuses croix de sang qui sont retrouvées depuis 2 ans, mais sans corps. C'est étrange, ça.
Oui, Ben, l'invisible, pareil, dans ma démarche de plasticienne à l'époque où j'étais aux Beaux-Arts et après, c'était une thématique que je traitais aussi, l'invisible, c'est-à-dire ce qui est au-delà justement de ce qui nous est donné à voir. Et peut-être que dans le roman, c'est encore plus simple à traiter malgré tout. Puisque le roman, bon, en fait, oui, on lit, mais on peut se projeter beaucoup plus facilement dans un invisible, dans un imaginaire. C'est vrai, l'invisible, oui, l'invisibilité, c'est quelque chose. Et puis l'homme, déjà, le thème aussi de l'homme invisible, hein, ça c'est...
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Voilà.
On a donc on a le chef du CID, l'équivalent du FBI de Nairobi, qui va appeler donc Anna Baxter, la meilleure de sa catégorie, pour essayer de mener l'enquête sur ces croix de sang qui sont sans cadavre. Et donc Anna Baxter va déroger à sa règle de ne pas prendre l'avion.
C'est pas une règle. Ce qui est une règle pour elle, c'est de ne pas accepter une mission sur le sol américain.
Ah oui, elle déroge à sa règle dans le deuxième.
Voilà, elle déroge plutôt, à sa règle oui. dans le deuxième. Mmh. Mais là, c'est pas une règle. Elle a peur de prendre l'avion. Elle est phobique. Bon, ça. Mmh. C'est vrai que c'est un petit peu... J'ai voulu exorciser quelque chose. Mais donc, elle surmonte ça. Elle a fait des stages aussi qui l'ont aidée à surmonter cette panique qui vient en fait d'un incident dans les airs.
Et donc, elle va accepter la mission que lui confie son homologue africain, T. Collins, qui est le seul flic du Kenya non corrompu.
Le seul, peut-être pas, parce
l'un
que
des
quand
seuls.
Même, oui, on va dire, oui, c'est un incorruptible.
Voilà. Et on sent que, voilà, il va faire appel à ses là aussi, il y a quelque chose chez Anna Baxter, on peut le dire, je pense, qui n'est pas habituel pour une profileuse. Elle voit aussi des choses qui sont pas forcément de l'ordre du visible aussi. Alors, est-ce que tu peux parler de ce don peut-être qu'elle a ou cette particularité? Elle a des méthodes peu orthodoxes pour enquêter.
Alors, elle a un don, effectivement, soit, là, je laisse un petit peu le lecteur aussi se faire son idée, mais elle est née peut-être comme ça, ou ce qui s'est passé dans son enfance a révélé ce don, puisque à ce moment-là de cette scène, on va dire fondatrice, elle commence à ressentir des choses. Je fais volontairement, je mêle volontairement rationnel et irrationnel, puisque c'est ce qui aussi compose notre vie, malgré tout. Même si on a tendance à s'en défendre, à rejeter l'irrationnel, il est présent constamment. Et donc, comme en Russie aussi, on fait appel, même dans des enquêtes ou lors de matchs d'échecs, pour déstabiliser l'adversaire aussi, il y a de la télépathie. Donc, ils font vraiment appel à des radiesthésistes, à des médiums, etc. Bon, en France, il n'en est pas question. Donc, aux États-Unis, ça s'ouvre déjà au profilage, ce qui, en France, est très, très récent. Et donc, j'ai voulu, dans cette dimension déjà de profileuse, ajouter une dimension, on va dire, entre guillemets, irrationnelle avec un pendule. Elle se sert d'un pendule pour mesurer des choses, découvrir des choses, voilà, à l'aide des champs magnétiques, telluriques, etc. Et donc, bon, c'est vrai que ça, certains lecteurs ont carrément eu du mal avec ça, c'est vrai. Mais je le revendique, ça, parce que ça existe, malgré ce qu'on... Voilà, ça existe aussi, c'est une part de documentation là-dessus.
Hein. Justement, donc, quand la neige danse, elle va être appelée d'abord des États-Unis pour voir par son...
De New York, oui.
Ouais, de New York. Elle habite à New York au 42e étage d'une tour. C'est son élève en criminologie qui va l'appeler pour aider à faire la lumière sur ces petites filles peut-être enlevées, enfin du moins disparues. Et elle va promener son pendule justement au-dessus de la carte de Crystal Lake. Et notamment, elle va sentir des vibrations dans une forêt, cette forêt, où il y a une cabane, où on va découvrir des choses. Voilà. Donc, justement, c'est pas une intervention magique, c'est pas une intervention facile.
Non,
c'est vraiment une composante, c'est vraiment son outil de travail, ce talisman, ce, ce,
C'est un pendule.
Voilà,
c'est...
ce pendule.
Non, c'est parce que là, dans le talisman, là, il y a un peu plus une notion de magie et de ce qu'on y met. Mais là, non, un pendule, ça révèle vraiment des choses. Et il y a des radiesthésistes qui... Bon, il y a les sourciers, donc eux retrouvent de l'eau, mais il y a des radiesthésistes qui ont retrouvé vraiment des personnes disparues de cette façon.
Et justement, dans son côté ambivalent, donc elle est en effet accro à la cocaïne, elle arrête donc, quand la neige danse. L'ambivalence aussi, elle est aussi une adhésion chez elle au bouddhisme, à cette, donc quelque chose de la spiritualité qui est importante aussi chez, dans ton univers. Justement, tu parlais du hameau des purs. Mm-hmm. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la, je sais pas, de la croyance, la spiritualité qui est une composante aussi importante de ton imaginaire.
Oui. Oui, oui. C'est quelque chose qui habite Anna Baxter en tant que réflexion également philosophique sur la vie. En revanche, je dénonce un certain obscurantisme et des croyances justement qui vont corrompre le pouvoir et la société, notamment dans Dust. Ça, oui, je dénonce ça fortement, en fait.
Elle fait aussi du yoga, de la méditation. Voilà, il y a une sorte de composante un peu de
pas forcément de mystique, mais en tout cas un mode de vie aussi qui va l'aider malgré tout à traverser tout ça. Parce que je dois dire aussi que Anna Baxter est un personnage qui est quelque peu inspiré d'une profileuse mondialement connue qui est Miki Pistorius, donc sud-africaine, qui est officier et qui a dû arrêter. Parce que justement, c'était ça ou sombrer dans la folie. Et puis elle parlait du vent dans sa tête. Donc quand elle se rendait sur une scène de crime, donc qui était vraiment très habitée, parce que c'est vrai que les tueurs en série sud-africains sont très 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 actifs. Donc ils ont en moyenne dans les 40 victimes, entre 40 et 60 victimes. Donc c'est vraiment très lourd. Et quand elle se rendait sur ces scènes de crime, voilà, elle sentait vraiment la scène de crime lui parlait. Alors on peut se dire, oula, effectivement, est-ce qu'elle a fumé, est-ce que... Non, c'était vraiment quelque chose, un ressenti très très fort. Et elle parlait de ce vent justement dans sa tête. Voilà, donc Anna Baxter, j'ai voulu aussi rendre ce côté un petit peu irrationnel, mais qu'on peut retrouver vraiment dans la réalité aussi.
Mais elle-même, elle dit à un moment, ma plus grande peur, je crois, est de devoir arrêter un jour, car c'est là où je risque vraiment de sombrer.
Voilà.
Elle le dit.
Oui, c'est ça aussi. Alors que Miki Pistorius, par exemple, elle a arrêté pour ne pas sombrer. Anna Baxter, elle a peur qu'en arrêtant, mais ça, c'est à cause de son passé aussi, parce qu'elle se doit de poursuivre cette quête et à cause de son passé.
Donc cette quête et cette enquête qui va la mener au plus près justement de ce. De se passer, quoi, justement. Petit à petit.
Tout à fait, petit à petit.
Donc, dans Dust, tu as voulu aborder aussi quelque chose de très important par rapport à l'Afrique, qui est vraiment une passion. Donc, tu parlais des carnets d'Afrique, de ta passion. On imagine que tu y es allé aussi bien aux États-Unis qu'au Kenya.
Oui, oui.
Cette poussière de Nairobi, ce côté non Disneylandisé.
La poussière, on y était bien, puisque c'était un voyage justement non Disneylandisé, non tour opératorisé. Il fallait quand même un chauffeur, parce que comme nous étions deux femmes, jeunes femmes, c'était quand même... c'était un chauffeur qu'on payait au black, sans mauvais jeu de mots, mais... voilà, et il nous a emmenés un peu hors des sentiers battus. Et donc, on était vraiment dans cette poussière d'Afrique qui nous a imprégnés jusque... Enfin, voilà.
Physiquement.
Physiquement. Physiquement, on est resté embourbés en pleine nuit. Enfin, bon, voilà, il y a eu deux, trois aventures comme ça. Et ça a ressurgi dans ce livre des années et des années après, puisque j'y suis allée en 2001 au Kenya. Et donc, entre-temps, j'ai également entendu parler du massacre des albinos là-bas, donc dans ce pays-là, aussi bien qu'en Tanzanie et au Burundi. Donc, ce sont les trois pays qui sont un peu visés là-dedans. Et je parle, dans une autre enquête qui est plus officieuse dans Dust, de ces exactions dont ils sont victimes simplement parce que c'est encouragé par les sorciers qui pour leur vertu soi-disant magique qui donne accès au pouvoir, à la richesse, etc., etc. Et c'est pour ça que les hommes politiques, pas tous évidemment, mais bon, jouent quand même un double jeu aussi, comme d'ailleurs pour les safaris, soi-disant en combattant justement les safaris, et puis en réalité, ils vendent leurs terres même, enfin, ils vendent les terres Maasai, et ils font partir les Maasai là-bas pour organiser des safaris. Eh bien, ils ont ce double langage aussi avec le problème des albinos, puisque eux-mêmes, certains hommes politiques, se servent de ces croyances à leur propre fin aussi, et puis vont même jusqu'à avoir des gris-gris, avoir des talismans à base de substrats humains, ingérer aussi des choses. Il y a un président africain qui se baignait dans du sang. Donc voilà, c'est encore là-bas très, très mêlé, quoi. C'est...
Oui, tu parles que le sang de ces... Justement, le sang de ces albinos est à la fois sacré, maudit. Enfin voilà,
tout sur eux. Hein. Leurs cheveux, dans certains pays, autres pays, bon, où, voilà, ils vont être un peu plus considérés comme magiques, mais respectés en même temps. On les arrête simplement dans la rue en leur demandant si il est possible de les toucher. Voilà, juste ça, ou d'avoir une mèche de leurs cheveux. Bon, là. Mais sinon, effectivement, on les massacre et à coups de machette, on pénètre jusque dans leurs habitats, dans leurs cases même parfois, et on tue les jeunes enfants également. Enfin, c'est vraiment terrible. Hein.
Et donc dans Dust aussi, il y a une association, je pense que ça existe aussi, Hope Camp,
Non, je ne sais pas si ça existe. Oui. En tout cas, je ne suis pas allée jusque-là, parce que vraiment, c'est quelque chose de secret dans le livre. Oui. Le camp de l'espoir. Oui. Et c'est là où, on va dire, j'ai eu l'idée de mettre des enfants pour, comme une espèce en voie de disparition. Qui doit être protégée à tout prix. Mmh. Et ces enfants sont en plein milieu, dans un endroit secret, justement, en plein milieu d'une des réserves. Et puis, il va y avoir aussi une intrigue avec eux. Là encore, on retrouve la thématique de l'enfance touchée.
Voilà. Mais c'est quelque chose qui
est récurrent chez moi, oui.
Oui. Et donc justement ce massacre d'albinos, enfin voilà, c'est une des pistes possibles, mais on va voir que c'est beaucoup plus complexe justement. Une des pistes possibles de ces croix de sang qui sont retrouvées, on pense à des crimes rituels, des sacrifices religieux. On a une femme qui à un moment est albinos qui est sacrifié en pleine rue, mutilé, décapité. Enfin voilà, c'est une chose terrible. Et en même temps, il y a toujours deux intrigues en parallèle, intrigues, voire trois. Donc quand la neige danse, donc il y a toujours une enquête officielle, une enquête officieuse. Ça c'est important. Et la participation, la collaboration, je veux dire, de d'Anna Baxter qui va apporter son propre savoir ces histoires. Comment tu construis justement ces différentes, est-ce que tu as un plan, est-ce que tu prévois justement ces différentes intrigues que tu intriques en boîte les unes aux autres comme un puzzle?
Alors au départ, il y a une trame, donc je vais transformer aussi en synopsis détaillée, que je soumets à l'éditeur, bien sûr, et puis voilà, après on part de là. C'est vraiment comme un jeu de construction autour duquel, enfin moi je parle aussi en termes de artistique, enfin dans le modelage et il y a une armature, hein, et ensuite on va coller la terre dessus par exemple, et ensuite on en enlève, il faut en enlever beaucoup. Puisque Dust, comme je te disais hier, c'était plus qu'un pavé quand je l'ai, en tant que manuscrit. Et la moitié a été enlevée. La moitié. Et pour conserver cette tension, parce que plus c'est dilué, moins il y a de tension, forcément.
Oui, et c'est vrai que c'est le propre aussi des thrillers un peu aussi américains d'être d'être des romans aussi, qui peuvent être fleuves, qui peuvent être, qui peuvent le laisser, mais en même temps, en effet, il y a une tension permanente. Oui. Et à chaque fois, donc dans tes deux romans, il y a une course contre la montre à la fin. Il faut que ça se résolve, et en même temps, il y a quelque chose de totalement prenant, quoi. Le temps, on ne lâche pas, quoi. On ne lâche pas.
Il faut que ça se résolve, mais en même temps, c'est quand même ouvert sur quelque chose, parce que c'est pas parce qu'on est à la fin d'un roman que tout s'arrête. Je veux laisser aussi la voie ouverte, quand même, sur d'autres choses.
Et justement, quelle est la part de... Alors, on voit que tu as bien beaucoup voyagé, que tu t'imprègnes de tes lectures, mais quelle est la part de... Est-ce qu'il y a une part de documentation? Est-ce qu'il y a une part de recherche de ta part?
Notamment pour Dust. Oui, il y a presque un travail. Bon, j'étais 6 ans dans le journalisme, mais je n'ai pas fait du journalisme d'investigation. J'ai fait, mais c'était quand même de la recherche et de la documentation aussi, pour des reportages. Pour Dust, ça a été un travail de cette sorte, oui. Je me suis documentée. Bon, maintenant, effectivement, un des médias, c'est quand même un des supports, c'est Internet aussi. Et puis, puisque mon écriture est très visuelle, donc j'ai besoin de voir aussi. Donc, j'ai regardé beaucoup de reportages là-dessus. De documentaires, donc très visuels, tournés sur place avec des témoignages aussi. Notamment ce grand-père qui a caché le corps mutilé de sa petite fille sous sa couche pour ne pas livrer ce corps, enfin pour pas que les trafiquants s'emparent du corps. C'était assez terrible, quoi.
Et donc, quand la neige danse, il y a eu tu parles du fait divers qui t'a inspiré, qui t'a influencé, après donc il y a eu l'imaginaire qui a plus pris le dessus.
Là j'ai voulu me reposer aussi, puis peut-être le lecteur, parce que c'est vrai que dans Dust il y a quand même une documentation. Alors ça a été dans l'ensemble apprécié. Et puis aussi, moi, en tant que lectrice, je sais que je n'aime pas trop quand la documentation, on va dire, dans un livre prend le pas, le dessus. J'aime bien aussi laisser partir, laisser errer l'imaginaire, l'esprit. Donc, ce que j'ai voulu faire dans Quand la neige danse. Donc, il y a 2-3 références, mais là, qui me sont personnelles, qui font partie de ma culture. Mais il n'y a pas du tout la documentation, sauf pour effectivement des choses, par exemple pour des armes, on ne peut pas inventer les choses. Quand on parle d'armes ou de lieux, Chicago, j'y suis allée, Crystal Lake, je n'y suis pas allée, Chicago, les environs. Et puis tout un périple américain de 11 000 km, mais je veux dire, je m'imprègne de tout ça.
D'accord. Et quand même par rapport à la part psychologique, voire psychiatrique, certains syndromes qu'on ne va pas citer parce que peut-être que les gens le connaissent aussi. Enfin voilà, il y a aussi une part de la folie de certains personnages d'où l'influence de Misery qui va être importante aussi. Ça c'est vraiment il est plus psychologique même quand la neige danse.
Oui. Presque, il est beaucoup plus psychologique. Oui. Mm. Oui. Oui. C'est également, ça peut être une violence aussi.
Et peut-être un peu moins centré sur Anna Baxter, puisque tu as voulu, au début, tu disais, alors c'est étrange parce que dans Quand la neige danse, si on ne lit pas la quatrième de couverture, on pourrait penser qu'elle ne va pas apparaître. Et si, elle apparaît quand même. Et elle va aider celle pour laquelle elle est un mentor. Donc Eva.
En fait, autant dans Dust, il y a, on va dire. Ouais, 2 personnages principaux, mais c'est quand même Anna qui est centrale. Autant dans Quand la neige danse, j'ai volontairement fait en sorte qu'il y ait 4 ou 5 personnages principaux. Et donc ça aussi, c'est pas très évident non plus à gérer. J'ai voulu donner toute l'importance, c'est-à-dire que chacun des personnages représente aussi soit une émotion, soit une part aussi dans laquelle le lecteur pourra se projeter lui-même. Donc il y a comme ça un panel de personnages. Joe Lasco, lui, c'est le père d'une des disparues, donc il représente toute la détresse des parents, tout ce qui se passe quand on est complètement démuni face à ça. Eva Sportis, elle représente le côté un petit peu outsider, puisqu'elle est détective.
Oui, détective privée.
Voilà, détective privée. Anna Baxter, bon, bah, on la connaît dans Dust et elle réapparaît un petit peu plus tard dans le deuxième. Alex Stevens, représentant de l'ordre, de la police locale, chef de la police locale, mais également avec ses failles.
Et lecteur de philosophie.
Et lecteur de philosophie, voilà, lecteur de
oui, chaque personnage est extrêmement fouillé quand même. Il a une entité, il a une présence, une existence vraiment à part entière. Quoi. Oui. C'est vrai qu'on se projette aisément de l'un à l'autre. Et donc d'autres personnages qui vont apparaître petit à petit et beaucoup, beaucoup de surprises. Et justement, en parlant des coups de cœur qui t'ont marqué, qui t'ont influencé, et c'est vrai que bon, tu disais, il y en a un qui, moi, m'a particulièrement marqué. Je pense qu'il a marqué beaucoup de gens qui l'ont lu. C'est Au-delà du mal de Shane Stevens, aussi un énorme roman qui est écrit il y a quasiment 40 ans. Je crois, hein, c'est un roman qu'on a connu en France il n'y a pas très longtemps, il y a 8 ans, il est toujours sur nos tables.
Il est antérieur.
Voilà, et c'est vraiment un roman culte aussi aux États-Unis. Est-ce que tu pourrais nous parler de
Il est question d'un monstre, hein, je veux dire, on peut pas. Voilà, un peu difficile.
Il a influencé Stephen King. Hein.
Il est question d'un monstre, mais. C'est pas si simple. Pour une fois, là, les Américains sont normalement assez manichéens. Et pour une fois, on va pas tomber dans le manichéisme, je veux dire, la lutte du bien contre le mal, etc. Là, c'est déjà dans le titre « Au-delà du mal ». Donc, au-delà du mal, on ne s'arrête pas au simple mal. Et au-delà du mal, au-delà de ce monstre qui est décrit, qui commet des choses absolument abominables.
Irréparables dès l'âge de 12 ans.
Voilà, très tôt. Mais on va découvrir aussi qu'il est victime. Et ça, c'est aussi une thématique dans mes romans. Le monstre est victime, justement, d'un système qui peut l'engendrer aussi.
D'une histoire aussi familiale.
D'une histoire familiale. Ça, c'est vrai qu'on tombe effectivement souvent. On retombe presque toujours là-dedans. Les tueurs en série ont quand même des histoires familiales assez complexes. Mais je vais peut-être en sortir justement de ça.
D'accord.
Dans mon prochain, je réfléchis. La volonté de sortir de.
Donc la rencontre avec le monstre ne sera pas celle qu'on croit.
Non.
On va encore être dérouté. et ça se passera peut-être pas ni en Afrique ni à.
Non, ça, on revient en France là.
Ah. Oui. On revient aux origines peut-être d'Anna.
Voilà.
Donc autre grande femme écrivaine qui est terrible, c'est la Terry Moider, et notamment Tokyo. Alors,
Tokyo,
pourquoi Tokyo plutôt que la série justement dont on parlait avec Jack Afri, Birdman, L'homme du soir.
Que j'aime beaucoup, hein, au demeurant toute la série avec Afri. Oui. Mais là, c'est parce que en fait, bon, elle s'attaque à un autre système, à la mafia japonaise. Et je veux dire, c'est vraiment extrêmement fort et très intéressant. Ça n'a rien à voir avec le glauque de ces autres romans.
Oui. Il a une place particulière.
Là, c'est un roman noir.
Oui.
Aussi, un one-shot qui traite aussi de la société, justement de la société japonaise, qui est quand même gangrénée par cette mafia qui est tentaculaire. Donc voilà, on est dans autre chose là. On n'est plus dans cet imaginaire avec éventuellement ces monstres dont on parle avant dans les autres romans de Stephen King ou de Shane Stevens. Mais là, j'ai trouvé qu'il est à part aussi dans l'œuvre de Moider, ce roman. Et c'est vraiment un de ses meilleurs.
C'est vrai qu'il est considéré comme
Tokyo.
Oui, justement.
Ouais.
Alors, autre roman énorme. Alors, je sais pas, il n'est pas très connu des lecteurs, celui-là. C'est un auteur allemand.
C'est mon roman, un de mes romans cultes aussi.
Tu disais que tu voulais le relire.
Ah bah
Abyss de Frank Schätzing.
Schätzing. J'aime pas relire ce que j'ai déjà lu, justement. Voilà, pour. Il y a tellement on a peu de temps, il y a tellement de choses à lire, mais celui-ci, je le relirai. Je le relirai un jour parce que j'étais un mois d'été absorbée complètement par celui-ci. C'est magnifique.
Oui. Ben, avec un côté un peu anticipation ou
un petit peu légèrement. Oui, il y a beaucoup de choses dedans, en fait. Il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de.
Et c'est le seul qui l'est fait, donc c'est vrai.
Qui mêle justement voilà, science, écologie et bon, politique, fiction. Voilà.
Autre grand roman, romancier alors anglais, mais qui écrit sur les États-Unis, R.J. Ellory, notamment Seul le silence. Alors, j'aurais peut-être pas pensé à celui-là, même si pour nous, c'est vrai qu'au rayon polar, les lecteurs l'ont découvert avec celui-là, qui était vraiment. Mais il est aussi à part, celui-là. J'aurais peut-être plutôt pensé à un roman vraiment avec Serial Killer. Mais là, c'est pourquoi celui-là
Alors déjà parce que, enfin c'est pas son premier.
En réalité. C'est pas son premier, mais son premier
c'est
traduit.
Son premier, c'est son premier traduit parce que son premier c'est Papillon.
Papillon de nuit.
Papillon de nuit.
Oui, qui est très beau d'ailleurs.
Qui est paru là, je crois.
Oui. Il y a pas très longtemps, juin dernier. Il est traduit. Très beau. Hein.
Voilà. Ben là, je l'ai pas encore lu celui-là.
C'est justement un peu dans la veine de Seul le silence.
Et Seul le silence, je l'ai trouvé très très bien écrit. Et ça fait du bien aussi de lire dans le thriller quelque chose de très très bien écrit, de dense, de. Là, je l'ai lu quand même il y a un moment. Je me souviens pas vraiment de l'histoire là par contre, hein, mais ça, il m'a marqué parce que en plus les suivants, je les ai trouvés moins forts malgré tout.
C'est vrai que celui-là, avec, il a fait une entrée fracassante dans le monde du polar, mais souvent les gens restent un peu sur le fond parce qu'il est en effet lent. C'est aussi un roman.
Oui, c'est lent. Que tel. C'est lent, mais c'est en même temps des longueurs qui ne ça gêne pas.
Voilà, ça gêne pas. On est envoûté par l'écriture, en effet.
J'ai retrouvé un petit peu la dimension de Seul le silence dans Mauvaise étoile. Voilà. Qui est toujours du même auteur.
Et puis la Mauvaise étoile, la thématique aussi de ces deux demi-frères, ces deux enfants, nés sous une mauvaise étoile. Voilà. Et puis l'histoire d'un psychopathe aussi qui vont croiser sur leur.
L'emprise de l'adulte sur l'enfant. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'interpelle dans des romans, par exemple, d'Henry James, Le Tour d'écrou aussi, notamment, de Gombrowicz, Witold Gombrowicz, la pornographie. Alors ça, c'est vraiment l'emprise de perverse d'adultes sur des enfants qui vont être réceptifs ou non à ça. Justement, qu'est-ce qui fait qu'un enfant va être réceptif, plus réceptif à la perversion de l'adulte ou à la manipulation? Donc c'est vrai, dans Mauvaise étoile, c'est vraiment ça aussi. Hein. Des deux frères, il y en a un qui va...
Voilà. Oui, deux destins différents.
Deux destins, alors que ce sont deux frères normalement éduqués de la même façon, a priori.
Oui, et avec une enfance terrible aussi. Quoi.
Terrible aussi, mais chacun aura une façon différente d'être... Il y en a un qui sera résilient, et puis l'autre, on va dire, voilà. Donc, merci en tout cas pour l'accueil. Merci à vous.